Je vous présente une autre invitée importante. Il s'agit de Madame Reine Pratt, responsable du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo au ministère de la Culture et de la Communication. Elle est venue exprès de France pour nous honorer en sorte de sa présence à ce colloque. Elle va prononcer quelques mots sur ce bicentenaire.
Merci. Responsable du bicentenaire au ministère de la Culture, j'étais plutôt responsable de la coordination des différentes manifestations du bicentenaire, chargée de cette mission par la ministre de la Culture auprès du comité national qui associait des représentants des différents comités, des différents ministères et grandes collectivités territoriales en France. On commémore trop. C'est par ces mots que le président du comité national, l'académicien Bertrand Poirot-Delpech, donna le 26 novembre 2001 le coup d'envoi aux manifestations du bicentenaire de la naissance de Victor Hugo, aux côtés de Madame Catherine Tasca, alors ministre de la Culture et de la Communication. On commémore trop, formule paradoxale, mais sentiment partagé dans les milieux culturels et les médias en France, sentiment qui explique sans doute que la ministre n'ait pas souhaité institutionnaliser cette commémoration, contrairement à la démarche qui avait été adoptée en 1985. Je signale au passage que Nicole Savy était en 1985 secrétaire générale du centenaire de la mort de Hugo. Et pourtant, pour Victor Hugo, il fallut bien s'y mettre. Un comité national fut constitué tard. Il est annoncé en juillet 2001 et installé en octobre suivant. Sans y croire tout à fait et sans réel enthousiasme. Est-ce le pressentiment d'un consensus jugé démobilisant? La nostalgie d'une époque, 1985, où la défense et l'illustration de Victor Hugo étaient un combat militant? Quelques mois plus tard, on sent une véritable jubilation mêlée d'étonnement et de curiosité devant une mobilisation quasi spontanée qui peut apparaître comme un phénomène de société. Plus de 1700 manifestations sont enregistrées au 31 octobre 2002 en France et dans le monde, sur tous les continents. Et elles n'y sont certainement pas toutes, puisque j'ai appris ici, par exemple, que Rigoletto avait été donné au mois de septembre à Tokyo, ce qui ne figure pas dans ce calendrier général. Sans entrer dans le détail, on peut observer que s'articule une grande variété d'initiatives, variété tant par les sujets abordés, les formes que prennent les manifestations, la nature des organisateurs, le public concerné. Donc, cette articulation permet de croiser quelques grandes manifestations préparées de longue date, en France notamment, par les grands établissements du ministère de la Culture. La Comédie Française, qui donne une série de représentations de Ruy Blas, la Bibliothèque Nationale de France, la Maison de Victor Hugo de la Place des Vosges, et j'en passe. On a aussi les projets internes aux établissements scolaires, aux universités, les projets appuyés dans le monde par le réseau culturel français à l'étranger, ceci pour les manifestations plus institutionnelles, je dirais, soutenues par les ministères. Une véritable déferlante à l'automne 2001, déferlante médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, la presse écrite. Souvent lié d'ailleurs à une activité éditoriale foisonnante dès l'année 2001. Également, au-delà de ces manifestations plus institutionnelles, les multiples initiatives qui ont fait vivre à l'heure hugolienne les bibliothèques, les centres culturels, les associations à travers tout le territoire. Et enfin, les actions initiées par le comité national. Je n'entrerai pas dans le détail de ces manifestations, et pour leur typologie et leur contenu, je renvoie au portail internet d'actualité du bicentenaire, dont je parlerai un petit peu plus loin. Je voudrais en revanche préciser quel a été le rôle de ce comité national. Chargé de coordonner et de donner sens à cette célébration, le comité national donne deux impulsions essentielles, ou plutôt favorise la création de deux outils pour que la célébration soit partagée par le plus grand nombre. Il s'agit d'abord de donner à lire l'œuvre de Hugo. Et c'est le comité national qui impulse, d'une part, la réimpression des œuvres complètes qui avaient été éditées en 1985 par la Fonds Bouquin, qui n'étaient plus disponibles en librairie dans leur totalité. Et, je précise que cette réimpression a fait l'objet d'un certain nombre de corrections que l'équipe de l'édition scientifique a réalisées dans des délais très très courts. Et, d'autre part, la mise en ligne des œuvres complètes en mode image sur Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Ce qui constitue, je crois, une petite révolution dans le monde de l'édition et qui a été fortement voulu par les éditeurs scientifiques, donc les membres du groupe Hugo. La deuxième initiative du comité a été la création de ce portail internet d'actualité du bicentenaire, dont je donne l'adresse, www.victorhugo, en un seul mot et en minuscule, .culture.fr, qu'on retrouvera sur les affiches qui sont sur les portes à l'entrée. Le portail internet s'adresse tant au grand public qu'aux organisateurs de manifestations. Il comporte le calendrier général des manifestations, interrogeable par ville, par date, par thème, par mot-clé, une rubrique intitulée « À la une » qui est mise à jour chaque mois, le 7 de chaque mois, et qui tient la chronique des événements, des publications, des parutions médiatiques les plus importantes ou les plus inattendues. Je pense à travers cette rubrique qu'on peut avoir une idée de la figure et des caractéristiques de ce bicentenaire. Le portail offre également des sources documentaires, une bibliographie des parutions récentes et des œuvres disponibles et qui renvoie sur d'autres bibliographies en ligne, une filmographie avec les contacts des distributeurs qui ont donc été utilisés par les organisateurs de cycles de cinéma, des documents d'actualité, communiqués de presse, allocutions qui ont été prononcées dans les différentes manifestations tout au long de l'année et, je pense bientôt, les actes du présent colloque. Des matériels, le logo Hugo 2002, des affiches, des expositions, notamment préparées par la Bibliothèque nationale de France et le ministère des Affaires étrangères et qui étaient à disposition des organisateurs. Et enfin, des liens sur de nombreux autres sites consacrés à Victor Hugo. Je vous invite donc à aller consulter ce portail qui a été réalisé par la mission de la recherche et de la technologie du ministère de la Culture et de la Communication. Il conjugue la richesse des informations, l'efficacité de la recherche, la modernité du graphisme qu'on peut voir sur les affiches et qui lui ont permis de connaître une fréquentation assez considérable puisqu'on comptait à la fin du mois de septembre 330 000 visiteurs, un petit peu plus. Ce portail, c'est aussi un formidable moyen d'observation de cette commémoration et il pourrait fournir la matière à des études futures qui seront peut-être entreprise. Très rapidement, on peut dire que le retour à l'œuvre de Hugo, opéré au cours de cette année, a permis de faire partager à un large public la conscience, d'une part, de l'actualité des thèmes abordés dans l'œuvre de Hugo, des combats politiques et sociaux dans lesquels il s'est engagé, nombreux colloques et conférences, Hugo et la guerre, les conférences de Badinter, notamment contre la peine de mort, les productions audiovisuelles de documentaires qui sortent en cette fin d'année, il y en a deux importantes qui toutes les deux portent sur la période de l'exil. un colloque qui renvoie à l'intervention qui vient d'être faite sur le débat patrimonial avec chez Victor Hugo, et la prise de conscience également de la modernité formelle de l'œuvre graphique. Je renvoie aux deux expositions montées par la Bibliothèque nationale de France, une dans ses murs, Victor Hugo, l'homme océan, et l'autre susceptible de recueillir un public plus large puisqu'elle est présentée à Paris dans les rues qui environnent le Sénat sur les grilles du jardin du Luxembourg et qui s'appelle Victor Hugo, le promeneur du Luxembourg, et où donc sont données aux passants des images, des œuvres, essentiellement de l'œuvre graphique et des manuscrits de Victor Hugo. Modernité formelle de la politique, de la poétique de Hugo, je citerai simplement un certain nombre de conférences qui ont été données par des écrivains qui appartiennent à l'Oulipo, ou voire de littérature potentielle, auquel participait, enfin héritier de Raymond Queneau, dont ce sera le centenaire de la naissance l'année prochaine. L'exposition de la maison de Victor Hugo aux Places des Vosges, qui, elle, se référait au théâtre et à la modernité du théâtre de Victor Hugo. Je n'entrerai pas plus dans les détails. Je voudrais citer peut-être trois exemples qui peuvent donner à penser que la fréquentation de Hugo, aujourd'hui, au moins ponctuellement, est inspiratrice et peut-être opératoire. Je ferai référence à une expérience personnelle puisque j'ai assisté à cette présentation et je peux témoigner dans le public de l'émotion et de la jubilation qui a été ressentie par les spectateurs réunis au mois de mars à l'Assemblée nationale en écoutant, dans le cadre d'un concours de plaidoyer, deux lycéens d'origine française, d'origine immigrée, d'origine algérienne, défendre avec une force et une conviction clairement inspirées par l'esprit de Victor Hugo, l'égalité des hommes et des femmes, ceux parmi vous qui étiez peut-être pourront en témoigner. Je voudrais citer aussi la mise en scène de Mangeront-ils, qui vient d'être donnée, qui est encore actuellement à Paris et qui sera donnée à Bamako au mois de décembre, qui est issue de la rencontre entre un jeune metteur en scène français, Julien Tefani, de jeunes comédiens maliens et des musiciens burkinabés, et qui a constitué une rencontre artistique tout à fait exceptionnelle et à plus d'un titre, mais je n'ai pas le temps de m'y étendre. Enfin, peut-être un clin d'œil, on peut noter que le nouveau ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, qui a confirmé la mission qui m'avait été confiée par Catherine Tasca, s'appuie dans le numéro spécial d'une revue qui cet été était consacrée à Victor Hugo sur une citation de celui-ci pour suggérer que le Panthéon, consacré au culte des grands hommes, pourrait enfin s'ouvrir aux grandes femmes, par exemple en accueillant en 2004 la dépouille de George Sand, et il y a une référence très précise à une phrase, un hommage rendu par Hugo à George Sand sur ce sujet. Je conclurai le survol de cette commémoration en rappelant l'exhortation de Hugo à laquelle les plus réticents se sont finalement rendus. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Ici, comme le disait Henri Méchonnic, Hugo nous manque aujourd'hui. Il faudrait saluer sans doute toutes celles et ceux qui, au cours de cette année, ont travaillé à essayer de le rendre présent.
Je vous remercie, Madame Pratt, de votre présentation de ce bicentenaire.